Émile Coué, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Autrefois, de la suggestion et de ses applications. Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais l'imagination. Mesdames, messieurs, la suggestion, ou plutôt l'autosuggestion, est un sujet tout à fait nouveau, en même temps qu'il est aussi vieux que le monde. Il est nouveau en ce sens que jusqu'à présent, il a été mal étudié, et par conséquent mal connu. Il est ancien parce qu'il date de l'apparition de l'homme sur la Terre. En effet, l'autosuggestion est un instrument que nous possédons en naissant, et cet instrument, ou mieux cette force, est doué d'une puissance inouïe, incalculable, qui suivant les circonstances, produit les meilleurs ou les plus mauvais effets. La connaissance de cette force est utile à chacun de nous, mais elle est plus particulièrement indispensable aux médecins, aux magistrats, aux avocats, aux éducateurs de la jeunesse. Lorsqu'on sait la mettre en pratique de façon consciente, on évite d'abord de provoquer chez les autres des autosuggestions mauvaises, dont les conséquences peuvent être désastreuses, et ensuite l'on en provoque consciemment de bonnes, qui ramènent la santé physique chez les malades, la santé morale chez les névrosés, les dévoyés, victimes inconscientes d'autosuggestions antérieures, et aiguillent dans la bonne voie des esprits qui avaient tendance à s'engager dans la mauvaise. L'être conscient et l'être inconscient. Pour bien comprendre les phénomènes de la suggestion, ou pour parler plus justement de l'autosuggestion, il est nécessaire de savoir qu'il existe en nous deux individus absolument distincts l'un de l'autre. Tous deux sont intelligents, mais tandis que l'un est conscient, l'autre est inconscient. C'est la raison pour laquelle son existence passe généralement inaperçue. Et cependant, cette existence est facile à constater pour peu qu'on se donne la peine d'examiner certains phénomènes et qu'on veuille bien y réfléchir quelques minutes. En voici quelques exemples. Tout le monde connaît le somnambulisme. Tout le monde sait qu'un somnambule se lève la nuit sans être réveillé, qu'il sort de sa chambre après s'être habillé ou non, qu'il descend des escaliers, traverse des corridors, et que, après avoir exécuté certains actes ou accompli certains travaux, il revient à sa chambre, se recouche, et montre le lendemain le plus grand étonnement en trouvant terminé un travail qu'il avait laissé inachevé la veille. Cependant, c'est lui qui l'a fait, bien qu'il n'en sache rien. À quelle force son corps a-t-il obéi, si ce n'est à une force inconsciente, à son être inconscient? Considérons maintenant, si vous le voulez bien, le cas trop fréquent, hélas, d'un alcoolique atteint de délirium tremens. Comme pris d'un accès de démence, il s'empare d'une arme quelconque, couteau, marteau, hachette, et frappe furieusement ceux qui ont le malheur d'être dans son voisinage. Quand l'accès terminé, l'homme recouvre ses sens, il contemple avec horreur la scène de carnage qui s'offre à sa vue, ignorant que c'est lui-même qui en est l'auteur. Ici encore, n'est-ce pas l'inconscient qui a conduit ce malheureux? Si nous comparons l'être conscient à l'être inconscient, nous constatons que tandis que le conscient est doué souvent d'une mémoire très infidèle, l'inconscient, au contraire, est pourvu d'une mémoire merveilleuse, impeccable, qui enregistre à notre insu les moindres événements, les moindres faits de notre existence. De plus, il est crédule et accepte sans raisonner ce qu'on lui dit. Et comme c'est lui qui préside au fonctionnement de tous nos organes par l'intermédiaire du cerveau, il se produit ce fait, qui vous semble plutôt paradoxal, que s'il croit que tel ou tel organe fonctionne bien ou mal, que nous ressentons telle ou telle impression, cet organe, en effet, fonctionne bien ou mal, ou bien nous ressentons telle ou telle impression. Non seulement l'inconscient préside aux fonctions de notre organisme, mais il préside aussi à l'accomplissement de toutes nos actions, quelles qu'elles soient. C'est lui que nous appelons imagination, et qui, contrairement à ce qui est admis, nous fait toujours agir, même et surtout contre notre volonté, lorsqu'il y a antagonisme entre ces deux forces. Volonté et imagination. Si nous ouvrons un dictionnaire, et que nous cherchions le sens du mot volonté, nous trouverions cette définition, faculté de se déterminer librement à certains actes. Nous accepterons cette définition comme vraie, inattaquable. Or, rien n'est plus faux, et cette volonté que nous revendiquons si fièrement cède toujours le pas à l'imagination. C'est une règle absolue qui ne souffre aucune exception. Blasphème, paradoxe, vous écrirez-vous. Nullement, vérité, pure vérité, vous répondrai-je. Et pour vous en convaincre, ouvrez les yeux, regardez autour de vous et sachez comprendre ce que vous voyez. Vous vous rendrez compte alors que ce que je vous dis n'est pas une théorie en l'air, enfantée par un cerveau malade, mais la simple expression de ce qui est. Supposons que nous placions sur le sol une planche de 10 mètres de long sur 25 cm de large. Il est évident que tout le monde sera capable d'aller d'un bout à l'autre de cette planche sans mettre le pied à côté. Changeons les conditions de l'expérience et supposons cette planche placée à la hauteur des tours d'une cathédrale. Quelle est donc la personne qui sera capable de s'avancer seulement d'un mètre sur cet étroit chemin? Est-ce vous qui m'écoutez? Non, sans doute. Vous n'auriez pas fait de pas que vous vous mettriez à trembler, et que, malgré tous vos efforts de volonté, vous tomberiez infailliblement sur le sol. Pourquoi donc ne tomberez-vous pas si la planche est à terre, et pourquoi tomberez-vous si elle est élevée? Tout simplement parce que dans le premier cas, vous vous imaginez qu'il vous est facile d'aller jusqu'au bout de cette planche, tandis que dans le second, vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas. Remarquez que vous avez beau vouloir avancer, si vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas, vous êtes dans l'impossibilité absolue de le faire. Si des couvreurs, des charpentiers sont capables d'accomplir cette action, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils le peuvent. Le vertige n'a pas d'autre cause que l'image que nous nous faisons que nous allons tomber. Cette image se transforme immédiatement en acte, malgré tous nos efforts de volonté, d'autant plus vite même que ces efforts sont plus violents. Considérons une personne atteinte d'insomnie. Si elle ne fait pas d'efforts pour dormir, elle restera tranquille dans son lit. Si au contraire elle veut dormir, plus elle fait d'efforts, plus elle est agitée. N'avez-vous pas remarqué que plus vous voulez trouver le nom d'une personne que vous croyez avoir oubliée, plus il vous fuit, jusqu'au moment où, substituant dans votre idée l'idée « ça va revenir » à l'idée « j'ai oublié », le nom vous revient tout seul, sans le moindre effort. Que ceux qui font de la bicyclette se rappellent leur début. Ils étaient sur la route, se cramponnant à leur guidon dans la crainte de tomber. Tout à coup, apercevant au milieu du chemin un simple petit caillou ou un cheval, plus ils cherchaient à éviter l'obstacle, plus droit ils se dirigeaient sur lui. À qui n'est-il pas arrivé d'avoir le fou rire, c'est-à-dire un rire qui éclatait d'autant plus violemment que l'on faisait plus d'efforts pour le retenir? Quel était l'état d'esprit de chacun dans ces différentes circonstances? Je ne veux pas tomber, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je veux dormir, mais je ne peux pas. Je veux trouver le nom de Madame Chose, mais je ne peux pas. Je veux éviter l'obstacle, mais je ne peux pas. Je veux contenir mon rire, mais je ne peux pas. Comme on le voit, dans chacun de ces conflits, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sur la volonté, sans aucune exception. Dans le même ordre d'idées, ne voyons-nous pas qu'un chef qui se précipite en avant, à la tête de ses troupes, les entraîne toujours après lui, tandis que le cri « sauf qui peut » détermine presque fatalement une déroute. Pourquoi ? C'est que dans le premier cas, les hommes s'imaginent qu'ils doivent marcher en avant, et que dans le second, ils s'imaginent qu'ils sont vaincus, et qu'il leur faut fuir pour échapper à la mort. Panurge n'ignorait pas la contagion de l'exemple, c'est-à-dire l'action de l'imagination, quand, pour se venger d'un marchand avec lequel il naviguait, il lui achetait son plus gros mouton et le jetait à la mer, certain d'avance que le troupeau suivrait tout entier, ce qui eut lieu du reste. Nous autres, hommes, nous ressemblons plus ou moins à la gent moutonnière, et contre notre gré, nous suivons irrésistiblement l'exemple d'autrui, nous imaginant que nous ne pouvons faire autrement. Je pourrais encore citer mille autres exemples, mais je craindrais que cette énumération ne devint fastidieuse. Je ne puis cependant passer sous silence ce fait qui montre la puissance énorme de l'imagination, autrement dit de l'inconscient, dans sa lutte contre la volonté. Il y a des ivrognes qui voudraient bien ne plus boire, mais qui ne peuvent s'empêcher de le faire. Interrogez-les, ils vous répondront en toute sincérité qu'ils voudraient être sobres, que la boisson les dégoûte, mais qu'ils sont irrésistiblement poussés à boire, malgré leur volonté, malgré le mal qu'ils savent que cela leur fera. De même, certains criminels commettent des crimes malgré eux, et quand on leur demande pourquoi ils ont agi ainsi, ils répondent « je n'ai pas pu m'en empêcher, cela me poussait, c'était plus fort que moi ». Et l'ivrogne et le criminel disent vrai, ils sont forcés de faire ce qu'ils font, par la seule raison qu'ils s'imaginent ne pas pouvoir s'en empêcher. Ainsi donc, nous qui sommes si fiers de notre volonté, nous qui croyons faire librement ce que nous faisons, nous ne sommes en réalité que de pauvres fantoches dont notre imagination tient tous les fils. Nous ne cessons d'être ces fantoches que lorsque nous avons appris à la conduire. Suggestion et autosuggestion. D'après ce qui précède, nous pouvons assimiler l'imagination à un torrent qui entraîne fatalement le malheureux qui s'y est laissé tomber, malgré sa volonté de gagner la rive. Ce torrent semble indomptable. Cependant, si vous savez vous y prendre, vous le détournerez de son cours, vous le conduirez à l'usine, et là, vous transformerez sa force en mouvement, en chaleur, en électricité. Si cette comparaison ne vous semble pas suffisante, nous assimilerons l'imagination, à la folle du logis comme on ne sait plus à l'appeler, à un cheval sauvage qui n'a ni guide ni reine. Que peut faire le cavalier qui le monte, sinon se laisser aller où il plaît au cheval de le conduire? Et souvent alors, si ce dernier l'emporte, c'est dans le fossé que s'arrête sa course. Que le cavalier vienne à mettre des rênes à ce cheval, et les rôles sont changés. Ce n'est plus lui qui va là où il veut, c'est le cavalier qui fait suivre au cheval la route qu'il désire. Maintenant que nous nous sommes rendus compte de la force énorme de l'être inconscient ou imaginatif, je vais montrer que cet être, considéré comme indomptable, peut être aussi facilement dompté qu'un torrent ou un cheval sauvage. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de définir soigneusement deux mots que l'on emploie souvent sans qu'ils soient toujours bien compris. Ce sont les mots « suggestion » et « autosuggestion ». Qu'est-ce donc que la suggestion ? On peut la définir « l'action d'imposer une idée au cerveau d'une personne ». Cette action existe-t-elle réellement ? À proprement parler, non. La suggestion n'existe pas en effet par elle-même. Elle n'existe et ne peut exister qu'à la condition sine qua non de se transformer chez le sujet en autosuggestion. Et ce mot, nous définirons l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Vous pouvez suggérer quelque chose à quelqu'un. Si l'inconscient de ce dernier n'a pas accepté cette suggestion, s'il ne l'a pas digérée, pour ainsi dire, afin de la transformer en autosuggestion, elle ne produit aucun effet. Il m'est arrivé quelquefois de suggérer une chose plus ou moins banale à des sujets très obéissants d'ordinaire, et de voir ma suggestion échouer. La raison en est que l'inconscient de ces sujets s'était refusé à l'accepter et ne l'avait pas transformé en autosuggestion. Emploi de l'autosuggestion. Je reviens à l'endroit où je disais que nous pouvons dompter et conduire notre imagination comme on dompte un torrent ou un cheval sauvage. Il suffit pour cela d'abord de savoir que cela est possible, ce que presque tout le monde ignore, et ensuite d'en connaître le moyen. Eh bien, ce moyen est fort simple. C'est celui que, sans le vouloir, sans le savoir, d'une façon absolument inconsciente de notre part, nous employons chaque jour depuis que nous sommes au monde, mais que malheureusement pour nous, nous employons souvent mal et pour notre plus grande âme. Ce moyen, c'est l'autosuggestion. Tandis que habituellement on s'autosuggère inconsciemment, il suffit de s'autosuggérer consciemment et le procédé consiste en ceci. D'abord, bien peser avec sa raison les choses qui doivent faire l'objet de l'autosuggestion et selon que celle-ci répond oui ou non, se répéter plusieurs fois sans penser à autre chose, ceci vient ou ceci passe, ceci sera ou ne sera pas, etc. Et si l'inconscient accepte cette suggestion, s'il s'autosuggère, on voit là où les choses se réalisent de point en point. Ainsi entendu, l'autosuggestion n'est autre que l'hypnotisme tel que je le comprends et que je définis par ces simples mots « influence de l'imagination sur l'être moral et l'être physique de l'homme ». Or, cette action est indéniable, et sans revenir aux exemples précédents, j'en citerai quelques autres. Si vous vous persuadez à vous-même que vous pouvez faire une chose quelconque, pourvu qu'elle soit possible, vous la ferez, si difficile qu'elle puisse être. Si au contraire, vous vous imaginez ne pas pouvoir faire la chose la plus simple du monde, il vous est impossible de la faire, et les topinières deviennent pour vous des montagnes infranchissables. Tel est le cas des neurasthéniques, qui se croyant incapables du moindre effort, se trouvent souvent dans l'impossibilité de faire seulement quelques pas sans ressentir une extrême fatigue. Et ces mêmes neurasthéniques, quand ils font des efforts pour sortir de leur tristesse, s'y enfoncent de plus en plus, semblables aux malheureux qui s'enlisent et qui s'enfoncent d'autant plus vite qu'ils font plus d'efforts pour se sauver. De même, il suffit de penser qu'une douleur s'en va pour sentir en effet cette douleur disparaître peu à peu. Et inversement, il suffit de penser que l'on souffre pour que l'on sente immédiatement venir la souffrance. Je connais certaines personnes qui prédisent à l'avance qu'elles auront la migraine tel jour, dans telle circonstance. Et en effet, au jour dit, dans les circonstances données, elles la ressentent. Elles se sont elles-mêmes donné leur mal, de même que d'autres se guérissent le leur par autosuggestion consciente. Je sais que généralement on passe pour fou aux yeux du monde quand on ose émettre des idées qu'il n'est pas habitué à entendre. Eh bien, au risque de passer pour fou, je dirais que si nombre de personnes sont malades moralement et physiquement, c'est qu'elles s'imaginent être malades soit au moral, soit au physique. Si certaines personnes sont paralytiques sans qu'il y ait aucune lésion chez elles, c'est qu'elles s'imaginent être paralysées. Et c'est parmi ces personnes que se produisent les guérisons les plus extraordinaires. Si certains sont heureux ou malheureux, c'est qu'ils s'imaginent être heureux ou malheureux. Car deux personnes, placées exactement dans les mêmes conditions, peuvent se trouver l'une parfaitement heureuse, l'autre absolument malheureuse. La neurasthénie, le bégaiement, les phobies, la kleptomanie, certaines paralysies, etc. ne sont autre chose que le résultat de l'action de l'inconscient sur l'être physique ou moral. Mais si notre inconscient est la source de beaucoup de nos maux, il peut aussi amener la guérison de nos affections morales et physiques. Il peut non seulement réparer le mal qu'il a fait, mais encore guérir des maladies réelles, si grande est son action sur notre organisme. Isolez-vous dans une chambre. Asseyez-vous dans un fauteuil. Fermez les yeux pour éviter toute distraction et pensez uniquement pendant quelques instants « telle chose est en train de disparaître. Telle chose est en train de venir. » Si vous vous êtes fait réellement de l'autosuggestion, c'est-à-dire si votre inconscient a fait sienne l'idée que vous lui aviez offerte, vous êtes tout étonné de voir se produire la chose que vous avez pensée. Il est à noter que le propre des idées autosuggérées est d'exister en nous, à notre insu, et que nous ne pouvons savoir qu'elles y existent que par les effets qu'elles produisent. Mais surtout, et cette recommandation est essentielle, que la volonté n'intervienne pas dans la pratique de l'autosuggestion. Car si elle n'est pas d'accord avec l'imagination, si l'on pense « je veux que telle ou telle chose se produise » et que l'imagination dise « tu le veux, mais cela ne sera pas », non seulement on n'obtient pas ce que l'on veut, mais encore on obtient exactement le contraire. Cette observation est capitale, et elle explique pourquoi les résultats sont si peu satisfaisants quand, dans le traitement des affections morales, on s'efforce de faire la rééducation de la volonté. C'est à l'éducation de l'imagination qu'il faut s'attacher, et c'est grâce à cette nuance que ma méthode a souvent réussi, là où d'autres, et non des moindres, avaient échoué. Des nombreuses expériences que je fais journellement depuis 20 ans, et que j'ai observées avec un soin minutieux, j'ai pu tirer les conclusions qui suivent et que j'ai résumées sous forme de lois. Premièrement, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. Deuxièmement, dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Troisièmement, quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Quatrièmement, l'imagination peut être conduite. Les expressions « en raison directe du carré de la volonté » et « se multiplient » ne sont pas rigoureusement exactes, c'est simplement une image destinée à faire comprendre ma pensée. D'après ce qui vient d'être dit, il semblerait que personne ne dût jamais être malade. Cela est vrai. Toute maladie, presque sans exception, peut céder à l'autosuggestion, si hardie et si invraisemblable que puisse paraître mon affirmation. Je ne dis pas « cède toujours », mais « peut céder », ce qui est différent. Mais pour mener les gens à pratiquer l'autosuggestion consciente, il faut leur enseigner comment faire, de même qu'on apprend à lire ou à écrire, qu'on leur enseigne la musique, etc. L'autosuggestion est, comme je l'ai dit plus haut, un instrument que nous portons en nous en naissant et avec lequel nous jouons inconsciemment toute notre vie, comme un bébé joue avec son hochet. Mais c'est un instrument dangereux, il peut vous blesser, vous tuer même si vous le maniez imprudemment et inconsciemment. Il vous sauve, au contraire, quand vous savez l'employer d'une façon consciente. On peut dire de lui ce qu'Ésope disait de la langue, c'est la meilleure et en même temps la plus mauvaise chose du monde. Je vais vous expliquer maintenant comment on peut faire que tout le monde ressente l'action bienfaisante de l'autosuggestion appliquée d'une façon consciente. En disant tout le monde, j'exagère un peu, car il y a deux classes de personnes chez lesquelles il est difficile de provoquer l'autosuggestion consciente. Premièrement, les arriérés, qui ne sont pas capables de comprendre ce que vous leur dites. Deuxièmement, les gens qui ne consentent pas à comprendre. Comment il faut procéder pour apprendre au sujet à s'autosuggestionner? Le principe de la méthode se résume en ces quelques mots. On ne peut penser qu'à une chose à la fois, c'est-à-dire que deux idées peuvent se juxtaposer, mais non se superposer dans notre esprit. Toute pensée, occupant uniquement notre esprit, devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Donc, si vous arrivez à faire penser à un malade que sa souffrance disparaît, elle disparaîtra. Si vous arrivez à faire penser à un kleptomane qu'il ne volera plus, il ne volera plus, etc., etc. Cette éducation, qui vous semble peut-être une impossibilité, est cependant la chose la plus simple du monde. Il suffit par une série d'expériences appropriées et graduées d'apprendre, pour ainsi dire, au sujet, l'ABC de la pensée consciente, et cette série, la voici. Si on la suit à la lettre, on est sûr, absolument sûr, d'obtenir un bon résultat, sauf avec les deux catégories de personnes désignées plus haut. Première expérience préparatoire. Priez le sujet de se tenir debout, le corps raide comme une barre de fer, les pieds joints d'une extrémité à l'autre, en conservant les chevilles molles, comme si elles étaient des charnières. Lui dire de s'assimiler à une planche ayant des gonds à sa base et qu'on arriverait à mettre en équilibre sur le sol. Lui faire observer que si l'on pousse légèrement la planche en avant ou en arrière, celle-ci tombe comme une masse, sans aucune résistance, du côté vers lequel on la pousse. Le prévenir que vous allez le tirer en arrière par les épaules et lui dire de se laisser tomber dans vos bras sans opposer la moindre résistance en tournant autour de ses chevilles comme charnière, c'est-à-dire ses pieds restant cloués sur le sol. Le tirer alors en arrière par les épaules et si l'expérience ne réussit pas, la recommencer jusqu'à ce qu'elle soit réussie ou à peu près. Deuxième expérience. Expliquez d'abord au sujet que pour lui montrer l'action de l'imagination sur nous-mêmes, vous allez le prier dans un instant de penser « je tombe en arrière », etc. Qu'il ne doit avoir que cette pensée dans l'esprit, qu'il ne doit faire aucune réflexion, qu'il ne doit pas se demander s'il va tomber ou non, que s'il tombe il peut se faire mal, etc., etc. Il ne doit pas, pour vous faire plaisir, tomber exprès en arrière. Mais que par contre, s'il ressent un je ne sais quoi qui l'attire, il ne doit pas résister, mais au contraire obéir à l'attraction qu'il éprouve. Priez alors le sujet de lever fortement la tête et de fermer les yeux. Placez le poing sous sa nuque, la main gauche sur son front, et lui dire « Pensez, je tombe en arrière, etc., etc. » Et en effet, vous tombez en arrière, vous tombez en arrière, etc. Et en même temps, faire glisser la main gauche légèrement en arrière sur la tempe gauche, au-dessus de l'oreille, et retirer lentement, très lentement, mais d'une façon continue, le poing droit. On sent aussitôt le sujet esquisser un mouvement en arrière et s'arrêter dans sa chute ou bien tomber. Dans le premier cas, lui dire qu'il a résisté, qu'il n'a pas pensé qu'il tombait, mais qu'il allait se blesser s'il tombait. Cela est vrai, car s'il n'avait pas eu cette pensée, il serait tombé d'un bloc. Recommencer l'expérience en employant un ton de commandement, comme si l'on voulait forcer le sujet à vous obéir. Continuez ainsi jusqu'à réussite complète ou presque complète. Une recommandation à faire à l'opérateur est de se tenir un peu en arrière du sujet, la jambe gauche en avant, la jambe droite portée fortement en arrière, afin de ne pas être renversé par le sujet lorsqu'il tombe. Si l'on négligeait cette précaution, il pourrait en résulter une double chute lorsque la personne est lourde. Troisième expérience. Faire placer le sujet en face de soi, le corps toujours raide, les chevilles molles et les pieds joints et parallèles. Lui placer les deux mains sur les tempes, sans appuyer, le regarder fixement, sans remuer les paupières, à la racine du nez, et lui dire de penser « je tombe en avant, je tombe en avant », et lui répéter, en scandant les syllabes, « vous tombez en avant, vous tombez en avant », etc., sans cesser de le regarder fixement. Quatrième expérience. Priez le sujet de croiser les mains et de serrer les doigts au maximum, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se produise un léger tremblement. Le regarder comme dans l'expérience précédente et tenir ses mains dans les siennes en pressant légèrement celles-ci, comme pour les serrer plus fortement. Lui dire de penser qu'il ne peut plus desserrer les doigts, que vous allez compter jusqu'à 3 et que lorsque vous direz 3, il devra essayer de séparer ses mains en pensant toujours « je ne peux pas, etc. » Il constatera que cela lui est impossible. Comptez alors 1, 2, 3, très lentement, et ajoutez immédiatement en détachant les syllabes « vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, etc. » Si le sujet pense bien « je ne peux pas », non seulement il ne peut pas desserrer les doigts, mais encore ces derniers se serrent avec d'autant plus de force qu'il fait plus d'efforts pour les séparer. Il obtient en somme le résultat contraire à celui qu'il voudrait obtenir. Au bout de quelques secondes, lui dire « maintenant, pensez « je peux », et ses doigts se desserrent. Avoir toujours soin de tenir le regard fixé sur la racine du nez du sujet et ne pas permettre à ce dernier de détourner un seul instant ses yeux des vôtres. Si l'on voit que celui-ci peut détacher ses mains, ne pas croire que c'est sa propre faute, c'est celle du sujet. Il n'a pas bien pensé, je ne peux pas. Affirmez-le lui avec certitude et recommencez l'expérience. Employez toujours un ton de commandement qui ne souffre pas de désobéissance. Je ne veux pas dire qu'il soit nécessaire d'élever la voix, au contraire. Il est préférable d'employer le diapason ordinaire, mais de scander chaque mot d'un ton sec et impératif. Quand cette expérience a réussi, toutes les autres réussissent également bien et on les obtient facilement en se conformant à la lettre aux instructions données plus haut. Certains sujets sont très sensibles et il est facile de les reconnaître à ce que la contraction de leurs doigts et de leurs membres se produit facilement. Après deux ou trois expériences bien réussies, il n'est plus nécessaire de leur dire « pensez ceci, pensez cela ». On leur dit par exemple, simplement, mais avec le ton impératif que doit employer tout bon suggestionneur, « fermez le poing, maintenant vous ne pouvez plus l'ouvrir ». Fermez les yeux, maintenant vous ne pouvez plus les ouvrir, etc. Et l'on voit le sujet dans l'impossibilité absolue d'ouvrir le poing ou les yeux, malgré tous ses efforts. Lui dire au bout de quelques instants, vous pouvez. Instantanément, la décontracture se produit. Les expériences peuvent être variées à l'infini. En voici quelques-unes. Faire joindre les mains et suggérer qu'elles sont soudées. Faire appliquer la main sur la table et suggérer qu'elle y est adhérente. Dire au sujet qu'il est collé à sa chaise et lui dire qu'il est impossible de se lever. Le faire se lever et lui dire qu'il est dans l'impossibilité de marcher. Placer un porte-plume sur une table et lui dire qu'il pèse 100 kilos et qu'il est impossible de le soulever, etc., etc. Dans toutes ces expériences, je ne saurais trop le répéter, ce n'est pas la suggestion proprement dite qui détermine les phénomènes, mais l'auto-suggestion consécutive chez le sujet à la suggestion du praticien. Nota, les instructions données ci-dessus ne sont destinées qu'aux professeurs. Il faut bien se garder d'essayer de faire soi-même ses expériences, parce que généralement, on ne se met pas dans les conditions voulues et l'on ne réussit pas. Manière de procéder pour faire de la suggestion curative. Quand le sujet a passé les expériences précédentes, qui ne doivent cependant pas être considérées comme indispensables, et qu'il les a comprises, il est mûr pour la suggestion curative. Quelle que puisse être l'affection du sujet, qu'elle soit physique ou morale, il importe de procéder toujours de la même façon et de prononcer les mêmes paroles avec quelques variantes suivant les cas. Vous dites au sujet « Asseyez-vous et fermez les yeux. Je ne veux pas essayer de vous endormir, c'est inutile. Je vous prie de fermer les yeux simplement pour que votre attention ne soit pas distraite par les objets qui frappent votre regard. Dites-vous bien maintenant que toutes les paroles que je vais prononcer vont se fixer dans votre cerveau, si imprimées, si gravées, si incrustées, et qu'il faut qu'elles y restent toujours fixées, imprimées, incrustées, et que sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez, d'une façon tout à fait inconsciente de votre part, votre organisme et vous-même devrez y obéir. Je vous dis d'abord que tous les jours, 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir, à l'heure des repas, vous aurez faim, c'est-à-dire que vous éprouverez cette sensation agréable qui fait penser et dire « Oh, que je mangerai donc avec plaisir ». Vous mangerez en effet avec plaisir et grand plaisir, sans toutefois trop manger. Mais vous aurez soin de mastiquer longuement vos aliments, de façon à les transformer en une espèce de pâte molle que vous avalerez. Dans ces conditions, vous digérerez bien et vous ne ressentirez ni dans l'estomac ni dans l'intestin aucune gêne, aucun malaise, aucune douleur de quelque nature que ce soit. L'assimilation se fera bien et votre organisme profitera de tous vos aliments pour en faire du sang, du muscle, de la force, de l'énergie, de la vie en un mot. Puisque vous aurez bien digéré, la fonction d'excrémation s'accomplira normalement, et tous les matins, en vous levant, vous éprouverez le besoin d'évacuer, et sans jamais avoir besoin d'employer aucun médicament, de recourir à aucun artifice, quel qu'il soit, vous obtiendrez un résultat normal et satisfaisant. De plus, toutes les nuits, à partir du moment où vous désirez vous endormir, jusqu'au moment où vous désirez vous réveiller le lendemain matin, vous dormirez d'un sommeil profond, calme, tranquille, pendant lequel vous n'aurez pas de cauchemar, et au sortir duquel vous serez tout à fait bien portant, tout à fait gai, tout à fait dispo. D'un autre côté, s'il vous arrive quelquefois d'être triste, d'être sombre, de vous faire de l'ennui, de broyer du noir, à partir de maintenant, il n'en sera plus ainsi. Et au lieu d'être triste, sombre, au lieu de vous faire du chagrin, de l'ennui, de broyer du noir, vous serez gai, bien gai, gai sans raison, c'est possible, mais gai tout de même, comme il pouvait vous arriver d'être triste sans raison. Je dirais plus, même si vous aviez des raisons vraies, des raisons réelles de vous faire de l'ennui et du chagrin, vous ne vous en ferez plus. S'il vous arrive aussi parfois d'avoir des mouvements d'impatience ou de colère, ces mouvements, vous ne les aurez plus. Vous serez, au contraire, toujours patient, toujours maître de vous-même. Et les choses qui vous ennuyaient, vous agaçaient, vous irritaient, vous laisseront dorénavant absolument indifférent et calme. Très calme. Si quelquefois vous êtes assailli, poursuivi, hanté par des idées mauvaises et malsaines pour vous, par des craintes, des frayeurs, des phobies, des tentations, des rancunes, j'entends que tout cela s'éloigne peu à peu des yeux, de votre imagination, et semble se fondre, se perdre, comme dans un nuage lointain où tout doit finir par disparaître complètement. Comme un songe s'évanouit au réveil, ainsi disparaîtront toutes ces vaines images. J'ajoute que tous vos organes fonctionnent bien. Le cœur bat normalement, et la circulation du sang s'effectue comme elle doit s'effectuer. Les poumons fonctionnent bien. L'estomac, l'intestin, le foie, la vésicule biliaire, les reins, la vessie remplissent normalement leurs fonctions. Si l'un d'entre eux fonctionne actuellement d'une façon anormale, cette anomalie disparaît un peu chaque jour, de telle sorte que dans un temps peu éloigné, elle aura disparu complètement, et cet organe aura repris sa fonction normale. De plus, s'il existe quelques lésions dans l'un d'eux, ces lésions se cicatrisent de jour en jour, et elles seront rapidement guéries. À ce propos, je dois dire qu'il n'est pas nécessaire de savoir quel organe est malade pour le guérir. Sous l'influence de l'autosuggestion, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, l'inconscient exerce son action sur cet organe qu'il sait discerner lui-même. J'ajoute encore ceci, et c'est une chose extrêmement importante. Si jusqu'à présent vous avez éprouvé vis-à-vis de vous-même une certaine défiance, je vous dis que cette défiance disparaît peu à peu pour faire place, au contraire, à de la confiance en vous-même, basée sur cette force d'une puissance incalculable qui est en chacun de nous. Et cette confiance est une chose absolument indispensable à tout être humain. Sans confiance en soi, on n'arrive jamais à rien. Avec de la confiance en soi, on peut arriver à tout, dans le domaine des choses raisonnables, bien entendu. Vous prenez donc confiance en vous, et la confiance vous donne la certitude que vous êtes capable de faire non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que vous désirez faire, à la condition qu'elles soient raisonnables, toutes les choses qu'il est aussi de votre devoir de faire. Donc lorsque vous désirez faire quelque chose de raisonnable, lorsque vous aurez à faire une chose qu'il est de votre devoir de faire, pensez toujours que cette chose est facile, que les mots « difficiles »,« impossible », »,« je ne peux pas », »,« c'est plus fort que moi », »,« je ne peux pas m'empêcher d'eux », disparaissent de votre vocabulaire. Ils ne sont pas français. Ce qui est français, c'est facile et je peux. Considérant cette chose comme facile, elle le devient pour vous, alors qu'elle semblerait difficile aux autres. Et cette chose, vous la faites vite, vous la faites bien, vous la faites aussi sans fatigue, parce que vous l'aurez faite sans effort. Tandis que si vous l'aviez considérée comme difficile ou impossible, elle le serait devenue pour vous, tout simplement parce que vous l'auriez considérée comme telle. À ces suggestions générales, qui sembleront peut-être un peu longues et même enfantines à quelques-uns, mais qui sont nécessaires, il faut ajouter celles qui s'appliquent au cas particulier du sujet que vous avez entre les mains. Toutes ces suggestions doivent être faites d'un ton monotone et berceur, en accentuant toutefois les mots essentiels, qui invitent le sujet, sinon à dormir, du moins à s'engourdir, à ne plus penser à rien. Quand la série des suggestions est terminée, on s'adresse au sujet en ces termes. En somme, j'entends que, à tout point de vue, tant au point de vue physique qu'au point de vue moral, vous jouissiez d'une excellente santé, d'une santé meilleure que celle dont vous avez pu jouir jusqu'à présent. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, vous ouvrirez les yeux et sortirez de l'état où vous êtes. Et vous en sortirez bien tranquillement. En en sortant, vous ne serez pas engourdi, pas fatigué, le moins du monde. Tout au contraire, vous vous sentirez fort, vigoureux, alerte, dispo, plein de vie. De plus, vous serez gai, bien gai, et bien portant sous tout rapport. 1, 2, 3. Au mot 3, le sujet ouvre les yeux et sourit toujours, avec sur son visage, une expression de contentement et de bien-être. Une fois ce petit discours terminé, vous ajoutez ce qui suit. Comment il faut pratiquer l'autosuggestion consciente ? Tous les matins au réveil, et tous les soirs, aussitôt au lit, fermez les yeux, et sans chercher à fixer son attention sur ce que l'on dit, prononcez avec les lèvres, assez haut pour entendre ses propres paroles, et en comptant sur une ficelle munie de 20 nœuds, la phrase suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Les mots « à tout point de vue » s'adressent à tout. Il est inutile de se faire des autosuggestions particulières. Faire cette autosuggestion d'une façon simple, aussi enfantine, aussi machinale que possible, par conséquent, sans le moindre effort. En un mot, la formule doit être répétée sur le ton employé pour réciter des litanies. De cette façon, l'on arrive à la faire pénétrer mécaniquement dans l'inconscient par l'oreille, et quand elle y a pénétré, elle agit. Suivre toute sa vie cette méthode, qui est aussi bien préventive que curative. De plus, chaque fois que dans le courant de la journée ou de la nuit, l'on ressent une souffrance physique ou morale, s'affirmer immédiatement à soi-même qu'on n'y contribuera pas consciemment et qu'on va la faire disparaître, puis s'isoler autant que possible, fermer les yeux, et se passant la main sur le front s'il s'agit de quelque chose de moral, ou sur la partie douloureuse s'il s'agit de quelque chose de physique, répéter extrêmement vite avec les lèvres les mots « ça passe, etc., etc. » aussi longtemps que cela est nécessaire. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire disparaître la douleur morale ou physique au bout de 20 à 25 secondes. Recommencer chaque fois qu'il en est besoin. À la pratique de l'autosuggestion ne remplace pas un traitement médical, mais c'est une aide précieuse pour le malade comme pour le médecin. Après vous avoir donné des conseils, je dois vous indiquer le moyen de les mettre en pratique. Il est donc facile de se rendre compte du rôle du suggestionneur. Ce n'est pas un maître qui ordonne, c'est un ami, un guide, qui conduit pas à pas le malade dans la voie de la guérison. Comme toutes ces suggestions sont données dans l'intérêt du malade, l'inconscient de ce dernier ne demande qu'à les assimiler et à les transformer en autosuggestions. Quand celle-ci s'est faite, la guérison s'obtient plus ou moins rapidement. Supériorité de la méthode. Cette méthode donne des résultats absolument merveilleux, et il est facile de comprendre pourquoi. En effet, en agissant comme je le conseille, on n'éprouve jamais d'échec, si ce n'est avec les deux catégories de gens dont j'ai parlé plus haut, et qui, heureusement, représentent 3% à peine de la masse. Si au contraire, on essaye d'endormir le sujet du premier coup, sans explication, sans les expériences préliminaires nécessaires pour l'amener à accepter la suggestion et la transformer en autosuggestion, on ne peut avoir et on n'a d'action que sur les sujets extrêmement sensibles, et ils sont en petit nombre. Tous peuvent le devenir par l'entraînement, mais très peu le sont suffisamment sans l'éducation préalable que je conseille de leur donner et qui se fait du reste dans l'espace de quelques minutes. Autrefois, me figurant que la suggestion ne pouvait bien agir que pendant le sommeil, j'essayais toujours d'endormir mon sujet. Mais ayant constaté que cela n'était pas indispensable, j'ai cessé de le faire pour lui éviter la crainte, l'angoisse, qu'il éprouve presque toujours lorsqu'on lui dit qu'on va l'endormir, crainte qui fait souvent qu'il offre malgré lui une résistance involontaire au sommeil. Si vous lui dites, au contraire, que vous ne voulez pas l'endormir, que cela est absolument inutile, vous gagnez sa confiance. Il vous écoute sans aucune frayeur, sans aucune arrière-pensée, et il arrive souvent, sinon la première fois, du moins très rapidement, que se laissant bercer par le son monotone de votre voix, il s'endort d'un sommeil profond dont il se réveille tout étonné d'avoir dormi. S'il y a parmi vous des incrédules, et il y en a, je leur dirai tout simplement, venez chez moi, voyez, et vous serez convaincus par les faits. Il ne faut pas croire cependant qu'il soit absolument nécessaire de procéder comme je viens de le dire, pour employer la suggestion et déterminer l'autosuggestion. La suggestion peut être faite aux gens à leur insu et sans aucune préparation. Que par exemple un docteur, qui par son seul titre exerce déjà sur son malade un effet suggestif, vienne à lui dire qu'il ne peut rien pour lui, que sa maladie est incurable, il provoque dans l'esprit de ce dernier une autosuggestion qui peut avoir les conséquences les plus désastreuses. Qu'il lui dise au contraire que sa maladie est grave, il est vrai, mais qu'avec des soins, du temps et de la patience, la guérison viendra, il pourra obtenir quelquefois, et souvent même, des résultats qui le surprendront. Autre exemple. Qu'un médecin, après avoir examiné son malade, rédige une ordonnance et la lui donne sans aucun commentaire. Les médicaments prescrits auront peu de chances de réussir. Mais qu'il explique à son client que tel et tel médicament devront être pris dans telle et telle condition et produiront tels et tels effets, presque infailliblement les résultats annoncés seront obtenus. S'il y a dans la salle des médecins ou des confrères pharmaciens, qu'ils ne me croient pas leur ennemi. Je suis au contraire leur meilleur ami. D'un côté, je voudrais voir inscrire dans le programme des écoles de médecine l'étude théorique et pratique de la suggestion pour le plus grand bien des malades et des médecins eux-mêmes. Et d'un autre côté, j'estime que chaque fois qu'un malade va trouver un médecin, celui-ci doit toujours lui ordonner un ou plusieurs médicaments, quand même ceux-ci ne seraient pas nécessaires. Le malade, en effet, quand il va trouver son docteur, il va pour qu'on lui indique le médicament qui le guérira. Il ne sait pas que le plus souvent, c'est l'hygiène, le régime qui agit. Il y attache peu d'importance, c'est un médicament qu'il lui faut. Si, à mon avis, le médecin prescrit seulement à son malade un régime sans aucune médication, celui-ci sera mécontent. Il se dira que c'était bien inutile de se déranger pour qu'on ne lui trouve rien à prendre, et souvent, il ira trouver un autre docteur. Il me semble donc que le médecin doit toujours prescrire des médicaments à son malade, et, autant que possible, pas de ces médicaments spécialisés autour desquels on fait tant de réclames, et qui ne valent le plus souvent que par la réclame qu'on leur fait, mais bien des médicaments formulés par eux-mêmes, qui inspirent au malade infiniment plus de confiance que les pilules X ou les poudres Y qu'il peut se procurer facilement dans toute pharmacie, sans qu'il soit besoin d'aucune ordonnance. Comment agit la suggestion ? Pour bien comprendre le rôle de la suggestion, ou plutôt de l'autosuggestion, il suffit de savoir que l'inconscient est le grand directeur de toutes nos fonctions. Faisons-lui croire, comme je l'ai déjà dit précédemment, que tel organe, qui ne fonctionne pas bien, doit bien fonctionner. Instantanément, il lui en transmet l'ordre, et celui-ci, obéissant docilement, sa fonction redevient normale, soit immédiatement, soit peu à peu. Ceci permet d'expliquer d'une façon aussi simple que claire comment, par la suggestion, on peut arrêter des hémorragies, vaincre la constipation, faire disparaître des fibromes, guérir des paralysies, des lésions tuberculeuses, des plaies varicoses, etc. Je prendrai comme exemple le cas d'une hémorragie dentaire, cas que j'ai pu observer dans le cabinet de M. Gauthier, dentiste à Troyes. Une jeune fille que j'avais aidée à se guérir d'un asthme qui durait depuis 8 ans me dit un jour qu'elle voulait se faire arracher une dent. Comme je la savais très sensible, je lui offris de la lui faire arracher sans douleur. Naturellement, elle accepta avec plaisir, et nous prîmes rendez-vous avec le dentiste. Aujourd'hui, nous nous rendîmes chez lui, et me plaçant devant la jeune fille, je lui dis « Vous ne sentez rien, vous ne sentez rien, vous ne sentez rien, etc. » Et tout en continuant ma suggestion, je fis signe au dentiste. Un instant après, la dent était enlevée, sans que Mademoiselle D eût sourcillé. Comme il arrive assez souvent, une hémorragie se déclara. Au lieu d'employer un hémostatique quelconque, je dis au dentiste que j'allais essayer de la suggestion, sans savoir à l'avance ce qui se produirait. Donc je priais Mademoiselle D de me regarder, et je lui suggérais que dans 2 minutes, l'hémorragie s'arrêterait d'elle-même, et nous attendîmes. La jeune fille rejeta encore quelques crachats sanguinolents, et ensuite plus rien. Je lui dis d'ouvrir la bouche, nous regardâmes et nous constatâmes que s'était formé un caillot de sang dans la cavité dentaire. Comment expliquer ce phénomène ? De la façon la plus simple. Sous l'influence de l'idée « l'hémorragie doit s'arrêter », l'inconscient avait envoyé aux artérioles et aux veines l'ordre de ne plus laisser s'échapper du sang, et docilement, elle s'était contractée naturellement, comme elle l'aurait fait artificiellement au contact d'un hémostatique, comme l'adrénaline par exemple. Le même raisonnement nous permet de comprendre comment un fibrome peut disparaître. L'inconscient ayant accepté l'idée « le fibrome doit disparaître », le cerveau ordonne aux artères qui le nourrissent de se contracter. Celles-ci se contractent, refusent leur service, ne nourrissent plus le fibrome et celui-ci, privé de nourriture, meurt, se dessèche, se résorbe et disparaît. Emploi de la suggestion pour la guérison des affections morales et des tares originelles ou acquises. La neurasthénie, si fréquente de nos jours, cède généralement à la suggestion pratiquée fréquemment de la façon que j'indique. J'eus le bonheur de contribuer à la guérison d'un grand nombre de neurasthéniques chez lesquels tous les traitements avaient échoué. L'un d'eux même avait passé 1 mois dans un établissement spécial du Luxembourg sans obtenir d'amélioration. En 6 semaines, il a été complètement guéri, et c'est maintenant l'homme le plus heureux du monde, après s'en être cru le plus malheureux. Et jamais plus il ne retombera dans sa maladie, car je lui ai appris à se faire de l'autosuggestion consciente, et il sait la pratiquer d'une façon merveilleuse. Mais si la suggestion est utile dans le traitement des affections morales et physiques, quel service bien plus grand encore ne peut-elle pas rendre à la société en transformant en honnêtes gens les malheureux enfants qui peuplent les maisons de correction et qui ne sortent de là que pour entrer dans l'armée du crime ? Que l'on ne vienne pas me dire que cela est impossible. Cela est, et je puis vous en fournir la preuve. Je citerai 2 cas suivants qui sont bien caractéristiques. Mais je dois ici ouvrir une parenthèse. Pour bien vous faire comprendre la façon dont la suggestion agit dans le traitement des tares morales, j'emploierai la comparaison suivante. Supposons que notre cerveau soit une planche dans laquelle sont enfoncées des pointes représentant nos idées, nos habitudes, nos instincts qui déterminent nos actions. Si nous constatons qu'il existe chez un individu une mauvaise idée, une mauvaise habitude, un mauvais instinct, en somme une mauvaise pointe, nous en prenons une autre, qui est l'idée bonne, l'habitude bonne, l'instinct bon, nous la plaçons directement sur la tête de la mauvaise pointe et nous donnons dessus un coup de marteau. Autrement dit, nous faisons de la suggestion. La nouvelle pointe s'enfoncera d'un millimètre, par exemple, tandis que l'ancienne sortira d'autant. À chaque nouveau coup de marteau, c'est-à-dire à chaque nouvelle suggestion, elle s'enfoncera encore d'un millimètre et l'autre sortira d'un millimètre. De sorte qu'au bout d'un certain nombre de coups, l'ancienne pointe sera complètement sortie et remplacée par la nouvelle. Cette substitution opérée, l'individu lui obéit. J'en reviens à mes exemples. Le jeune M, âgé de 11 ans, demeurant à Troyes, était sujet nuit et jour à certains petits accidents qui sont inhérents à la première enfance. De plus, il était kleptomane et naturellement, il mentait aussi. Sur la demande de sa mère, je lui fis de la suggestion. Dès la première séance, les accidents cessèrent pendant le jour, mais continuèrent pendant la nuit. Petit à petit, ils devinrent moins fréquents, et finalement, quelques mois après, l'enfant fut complètement guéri. En même temps, la passion du vol s'atténuait, et au bout de 6 mois, il ne volait plus. Le frère de cet enfant, âgé de 18 ans, avait conçu contre un autre de ses frères une haine violente. Chaque fois qu'il avait bu un peu plus que de raison, il éprouvait l'envie de tirer son couteau et d'en frapper son frère. Il sentait que cela se produirait un jour, et il sentait en même temps qu'après avoir accompli son crime, il se mettrait à sangloter sur le corps de sa victime. Je lui fis également de la suggestion. Chez lui, le résultat fut merveilleux. Dès la première séance, il fut guéri. Sa haine pour son frère avait disparu, et depuis lors, ils furent tous deux bons amis, cherchant à s'être agréables l'un à l'autre. Je l'ai suivi pendant longtemps, la guérison persistait toujours. Quand, par la suggestion, on obtient de semblables résultats, ne semblerait-il pas utile, je dirais plus indispensable, d'adopter cette méthode et de l'introduire dans les maisons de correction? Je suis absolument certain que par une suggestion journellement appliquée à des enfants vicieux, on en ramènerait plus de 50% dans le droit chemin. Ne serait-ce pas rendre à la société un service immense que de lui redonner, sain et bien portant, des membres auparavant rongés par la pourriture morale? On m'opposera peut-être qu'il y a danger à employer la suggestion, qu'on peut s'en servir pour faire le mal. Cette objection n'a aucune valeur. D'abord parce que la pratique de la suggestion serait confiée à des gens sérieux et honnêtes, aux médecins des maisons de correction par exemple, et que d'autre part, ceux qui cherchent à s'en servir pour le mal n'en demandent la permission à personne. Mais en admettant même qu'elle offre quelques dangers, ce qui n'est pas, je demanderai à celui qui me ferait cette objection quelle est la chose que nous employons qui est sans danger. Est-ce la vapeur? Est-ce la poudre? Sont-ce les chemins de fer, les navires, l'électricité, les automobiles, les aéroplanes? Sont-ce les poisons que nous, médecins et pharmaciens, employons chaque jour à dose infinitésimale et qui peuvent foudroyer le malade si dans un moment d'inattention, nous avons le malheur de nous tromper dans une pesée? Quelques cas de guérison. Ce petit travail serait incomplet s'il ne contenait quelques exemples de guérison. Je ne citerai pas toutes celles dans lesquelles je suis intervenu. Ce serait trop long et peut-être aussi quelque peu fatigant. Je me contenterai seulement d'en citer quelques-unes des plus remarquables. Mademoiselle M.D. de Troyes souffre depuis 8 ans d'un asthme qui l'oblige à rester assise sur son lit pendant la plus grande partie de la nuit, cherchant à remplir ses poumons qui lui refusent leur service. Expérience préliminaire qui la montre très sensible, sommeil immédiat, suggestion. Dès le premier jour, amélioration énorme. Mademoiselle D. passe une bonne nuit, interrompue seulement par un accès d'asthme qui dure 15 minutes. Au bout de très peu de temps, l'asthme disparaît complètement, sans rechute ultérieure. Monsieur M., ouvrier bonnetier, demeurant à Sainte-Savine, près de Troyes, paralysé depuis 2 ans à la suite de lésions à la jonction de la colonne vertébrale au bassin. La paralysie n'existe que dans les membres inférieurs. La circulation du sang est presque nulle dans ces membres, qui sont gonflés et congestionnés au point d'être violacés. Divers traitements, même le traitement antisyphilique, ont été appliqués sans résultat. Expérience préliminaire bien réussie, suggestion de ma part, autosuggestion de la part du sujet pendant 8 jours. Au bout de ce temps, mouvement presque imperceptible de la jambe gauche, mais cependant appréciable. Nouvelle suggestion. 8 jours après, amélioration notable. De semaine en semaine, amélioration de plus en plus grande, avec disparition progressive de l'enflure, et ainsi de suite. Au bout de 11 mois, le 1er novembre 1906, le malade descend seul ses escaliers et fait 800 mètres à pied. Et au mois de juillet 1907, il rentre à l'atelier, où il continue à travailler depuis ce moment, ne conservant plus trace de paralysie. Monsieur A.G., demeurant à Troyes, souffre depuis longtemps d'une entérite que différents traitements n'ont pu guérir. Son moral est très mauvais. Monsieur G. est triste, sombre, insociable. Il est poursuivi par des idées de suicide. Expérience préliminaire facile, puis suggestion qui produit un résultat appréciable dès le jour même. Pendant 3 mois, suggestion journalière d'abord, puis de plus en plus espacée. Au bout de ce temps, la guérison est complète. L'entérite a tout à fait disparu. Le moral est devenu excellent. Comme cette guérison date de 12 ans, sans l'ombre d'une rechute, on peut la considérer comme complète. Monsieur G est un exemple frappant des effets que peut produire la suggestion, ou plutôt l'autosuggestion. Tout en lui faisant de la suggestion au point de vue physique, je lui en faisais également au point de vue moral, et il acceptait aussi bien l'une que l'autre. Ainsi prenait-il en lui une confiance chaque jour grandissante. Comme il était excellent ouvrier, il chercha pour gagner davantage à se procurer un métier de bonnetier afin de travailler chez lui pour le compte d'un patron. Quelque temps après, un fabricant, l'ayant vu travailler sous ses yeux, lui confia le métier qu'il désirait. Monsieur G, grâce à son habileté, fit rendre à son métier un produit beaucoup plus grand que les ouvriers ordinaires. Enchanté de ce résultat, l'industriel lui en confia un autre, puis encore un autre, etc. De sorte que Monsieur G, qui serait resté simple ouvrier s'il n'avait eu recours à la suggestion, se trouve maintenant à la tête de 6 métiers qui lui procurent un très gros gain. Madame M a 30 ans environ, atteinte de tuberculose. Amaigrissement chaque jour grandissant malgré la suralimentation. Tout, oppression, crachat, elle semble n'avoir plus que quelques mois à vivre. Expérience préliminaire dénotant une grande sensibilité, suggestion, amélioration immédiate. Dès le lendemain, les symptômes morbides semblent s'atténuer. L'amélioration devient chaque jour plus sensible. Le poids de la malade augmente rapidement, bien qu'elle ne se suralimente plus. Au bout de quelques mois, la guérison semble complète. Cette personne m'écrit au 1er janvier 1911, c'est-à-dire 8 mois après mon départ de Troyes, pour me remercier. Elle me fait savoir que, bien qu'elle soit enceinte, elle se porte à merveille. À ces cas que j'ai choisis anciens avec intention, pour montrer que la guérison est durable, je veux en ajouter quelques autres un peu plus récents. Monsieur X, employé des postes à Lunéville, perd un enfant en janvier 1910. D'où commotion cérébrale qui se manifeste chez lui par un tremblement nerveux incoercible. Son oncle me l'amène au mois de juin. Expérience préliminaire puis suggestion. 4 jours après, le malade revient. Il me dit que son tremblement a disparu. Nouvelle suggestion et invitation à revenir 8 jours après. 8 jours se passent, puis 15 jours, puis 3 semaines, puis 1 mois. Point de nouvelles. Peu après, son oncle revient et me dit qu'il a reçu une lettre de son neveu. Celui-ci va tout à fait bien. Il a réintégré son poste de télégraphiste qu'il avait dû abandonner, et la veille, il a passé une dépêche de 170 mots sans la moindre difficulté. Il aurait pu, ajoutait-il dans sa lettre, en passer une plus longue. Depuis lors, pas de rechute. Monsieur Y, de Nancy, neurasthénique depuis plusieurs années, a des phobies, des terreurs, des fonctions de l'estomac et des intestins qui s'accomplissent mal, le sommeil est mauvais, son humeur est sombre et les idées de suicide l'assiègent. Il titube en marchant comme un homme ivre, il pense continuellement à son mal. Tous les traitements ont été impuissants, et son état va toujours en empirant. Un séjour d'un mois dans une maison spéciale ne produit aucun effet. Monsieur Y vient me trouver au commencement d'octobre 1910. Expérience préliminaire, relativement facile. J'explique au malade le mécanisme de l'autosuggestion et l'existence en nous de l'être conscient et de l'être inconscient. Suggestion. Pendant 2 ou 3 jours, Monsieur Y est un peu troublé par les explications que je lui ai données. Au bout de quelque temps, la lumière se fait dans son esprit. Il a compris. Je lui fais de la suggestion, et il s'en fait lui-même chaque jour. L'amélioration, d'abord lente, devient de plus en plus rapide, et au bout d'un mois et demi, la guérison est complète. L'ex-malade, qui naguère se considérait comme le plus malheureux des hommes, s'en trouve maintenant le plus heureux. Non seulement il n'y a pas eu de rechute, mais encore il est impossible qu'il s'en produise, parce que Monsieur Y est convaincu qu'il ne peut plus retomber dans le triste état où il se trouvait autrefois. Monsieur E, de Troyes, attaque de gouttes, la cheville du pied droit est enflée et douloureuse, la marche est impossible. Les expériences préliminaires le montrent très sensible. Après la première suggestion, il peut regagner sans l'aide de sa canne à la voiture qu'il a amenée. Il ne souffre plus. Le lendemain, il ne revient pas comme je lui avais dit de le faire. Sa femme vient seule et m'apprend que le matin son mari s'était levé, qu'il avait chaussé ses souliers et était parti visiter ses chantiers à bicyclette. Ce monsieur est peintre. Inutile de vous dire ma stupéfaction. Je n'ai pas suivi ce malade qui n'a pas daigné revenir chez moi. J'ai su qu'il était resté longtemps sans rechute, mais j'ignore ce qui s'est produit depuis lors. Madame T, de Nancy, neurasthénie, dyspepsie, gastrégie, entérite, douleurs dans différentes parties du corps. Elle se soigne depuis plusieurs années avec un résultat négatif. Suggestion de ma part, autosuggestion journalière de la sienne. Amélioration sensible dès le premier jour. Cette amélioration se continue sans interruption. Actuellement, cette personne est guérie depuis longtemps, au moral et au physique. Elle ne suit plus aucun régime. Il lui semble qu'il lui reste un peu d'entérite, mais elle n'en est pas sûre. Madame X, sœur de Madame T, neurasthénie profonde. Elle reste au lit 15 jours par mois, dans l'impossibilité de se mouvoir et de travailler. Inappétence, tristesse, mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Guérison en une seule séance. Cette guérison semble devoir être durable, puisque jusqu'ici, il n'y a pas eu la moindre rechute. Madame X à Maxéville. Eczéma généralisé. Il est particulièrement intense à la jambe gauche. Les deux jambes sont enflées, surtout aux chevilles. La marche est difficile, douloureuse. Suggestion. Le soir même, Madame H peut faire plusieurs centaines de mètres sans fatigue. Le lendemain, les pieds et les chevilles sont désenflés et ne renflent plus depuis. L'eczéma disparaît complètement. Madame P à La Neuveville. Douleur dans les reins et les genoux. La maladie dure depuis 10 ans et va en empirant chaque jour. Suggestion de ma part et autosuggestion de la sienne. L'amélioration est immédiate et augmente progressivement. La guérison s'obtient rapidement et dure toujours. Madame Z de Nancy a contracté en janvier 1910 une congestion pulmonaire dont elle n'est pas remise 2 mois après. Faiblesse générale, inappétence, digestion mauvaise, selles rares et difficiles, insomnie, sueur nocturne abondante. Dès la première suggestion, la malade se sent beaucoup mieux. Au bout de 2 jours, elle revient et me dit qu'elle se trouve tout à fait bien. Toute trace de maladie a disparu et les fonctions s'accomplissent normalement. 3 ou 4 fois, elle a été sur le point de transpirer, mais chaque fois, elle s'en est empêchée par l'emploi de l'autosuggestion consciente. Depuis ce moment, Madame Z se porte à merveille. Monsieur X, professeur à Belfort, ne peut parler pendant plus de 10 minutes à 15 minutes sans devenir complètement aphone. Différents médecins consultés ne lui trouvent aucune lésion dans les organes de la voix. L'un d'eux lui dit qu'il a de la sénilité du larynx et cette affirmation le confirme dans l'idée qu'il ne pourra jamais se guérir. Il vient à Nancy passer ses vacances. Une dame que je connais lui conseille de venir me trouver. Il refuse d'abord, enfin il y consent malgré son incrédulité absolue dans les effets de la suggestion. Je lui en fais néanmoins et le prie de revenir le surlendemain. Il revient le jour dit et me raconte que la veille il a causé tout l'après-midi sans devenir aphone. 2 jours après, il revient encore. L'aphonie n'a point reparu, bien que Monsieur X ait non seulement beaucoup causé, mais qu'il ait encore chanté la veille. La guérison a persisté. Avant de terminer, je tiens à vous dire encore quelques mots sur un procédé excellent à employer par les parents pour faire l'éducation de leurs enfants et les débarrasser de leurs défauts. Ils doivent, pour cela, attendre que l'enfant soit endormi. L'un d'eux pénètre avec précaution dans la chambre, s'arrête à 1 mètre de son lit et lui répète 15 ou 20 fois, en murmurant, toutes les choses qu'il désire obtenir de lui, tant au point de vue de la santé, du sommeil, que du travail, de l'application, de la conduite, etc. Puis il se retire, comme il est venu, en prenant bien garde d'éveiller l'enfant. Ce procédé, extrêmement simple, donne les meilleurs résultats, et il est facile d'en comprendre le pourquoi. Quand l'enfant dort, son corps et son être conscient se reposent. Ils sont pour ainsi dire annihilés, mais son être inconscient veille. C'est donc à ce dernier seul que l'on s'adresse, et comme il est très crédule, il accepte ce qu'on lui dit, sans discussion, et petit à petit, l'enfant arrive à faire de lui-même ce que les parents désirent. Conclusion. Quelle conclusion tirer de tout cela ? Cette conclusion est bien simple et peut s'exprimer en peu de mots. Nous possédons en nous une force d'une puissance incalculable qui, lorsque nous la manions d'une façon inconsciente, nous est souvent préjudiciable. Si au contraire nous la dirigeons d'une façon consciente et sage, elle nous donne la maîtrise de nous-mêmes et nous permet non seulement d'aider à nous soustraire nous-mêmes et à soustraire les autres à la maladie physique et à la maladie morale, mais encore de vivre relativement heureux, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous puissions nous trouver. Enfin et surtout, elle peut, elle doit être appliquée à la régénération morale de ceux qui sont sortis de la voie du bien. Émile Coué.